Nous avons donc la joie et le plaisir d'avoir comme orateur quelqu'un que je connais depuis 35 ans maintenant. Nous sommes en 88, non 87. Je suis à Bruxelles. Je dis à mon frère que je salue par ailleurs en passant, qui est au Canada chez un de mes neveux, donc je les salue, mon frère Claude et son épouse Marie-Jeanne. Je dis, mais écoute, moi je dois aller à l'église, il faut me trouver, on va chercher une église des Assemblées de Dieu. Il dit, oui, j'en connais, lui n'était pas encore dans la foi, je le gagnerai plus tard au Seigneur. Et là, nous sommes partis dans une église des Assemblées de Dieu à Bruxelles, le centre évangélique en forêt, pour ceux qui connaissent Bruxelles. Et après, je m'intéresse à la jeunesse, on me dirige vers le responsable de la jeunesse. Je vois un jeune homme, voyez, et puis on fait connaissance. Et voilà, tout est parti de là. Et aujourd'hui, je suis content, donc, d'être avec lui et de lui laisser la chair pour qu'il nous parle. Le pasteur Anzalone Donato Giuseppe, ça, il me l'a rappelé, donc, a travaillé à Bruxelles, d'ailleurs avec notre sœur Liliane qui est là pendant des années, et puis pour le moment, il exerce son ministère pastoral et en même temps d'enseignant, donc pour le moment, il est en Suisse, et nous voulons lui laisser toute la place pour qu'il nous apporte la parole de Dieu. Pasteur, merci, que le Seigneur vous bénisse. Allez. Maintenant, ce n'est plus de jeune homme. Le temps a passé par là, et passé par là. Merci, que Dieu vous bénisse.
Merci, pasteur Bondo. Je ne sais pas pourquoi il a dit qu'on s'est rencontrés il y a 35 ans. Je n'ai que 32 ans. Non, tout à fait, je rigole. Je dis, je n'ai que 32 ans. Je rigole, on s'est rencontrés en 87. Oui, on s'est rencontrés il y a de nombreuses années. On est vraiment contents d'être ici avec vous. Nous aimons beaucoup le pasteur Bondo. Et il est très apprécié aussi en Belgique, je vous assure. Je parlais cette semaine avec Daniel Costanza, qui est le directeur de toute la fédération, la communion des églises pentecôtistes en Europe. Et il me dit, salut bien le frère Bondo, c'est mon grand ami. Et donc vous avez ses salutations aussi. Et je sais qu'il serait heureux de vous revoir le plus vite possible. Hein? Donc vous avez ces salutations, vous avez aussi les salutations de notre église, le Centre Chrétien Parole Vivante, à Lugano en Suisse. Notre église, elle est à la fois italienne, on parle à la fois l'italien et l'anglais, c'est une église bilingue, mon épouse Annelise vous salue aussi, pour ceux qui peut-être qui l'ont entendu, et tu le sais. Et mon épouse, le 22 janvier, a été victime d'un AVC vraiment mortel. Les médecins disaient qu'ils s'attendaient à la voir morte ou paralysée. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle n'est ni morte ni paralysée. Amen. Il y a de petites séquelles qui font qu'elle doit faire toutes sortes de thérapies autour de la musculation, autour des yeux. Mais on voit des progrès constamment. Et on remercie beaucoup le pasteur Bondo pour vos prières dévouées, ainsi que maman Gisèle. Merci beaucoup pour vos prières. Et je pense que, j'espère qu'une prochaine fois, mon épouse sera avec moi au Congo. Amen. Amen. C'est une joie d'être avec vous. Ça fait 25 ans que j'étais ici, sur cette plateforme. Et j'étais venu, le pasteur Vernon n'était pas là, il était, je crois, quelque part dans le sud de l'Afrique. Et il m'avait dit, Donato, si tu es à Kinshasa, tu dois prêcher dans mon église. Et donc je suis venu prêcher, et ça fait vraiment beaucoup d'émotion d'être de nouveau parmi vous. Et avec, bien sûr, à sa tête, le pasteur Bondo. Amen. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Jésus m'a libéré. Amen. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Alors, bien sûr, quand on apporte un message, c'est notre responsabilité de nous trouver devant le Seigneur et de demander, Seigneur, quel est le message que tu veux apporter dans cette église? Je crois la même chose que le pasteur Bondo fait, que quiconque vient prêcher dans votre église fait, il va et il demande à Dieu ce qu'il faut prêcher. Et donc, j'ai reçu le message du Seigneur, et puis je me suis dit, mais enfin, pendant la louange, ils ont prêché mon message ? Ah ! Je me dis, à quoi ça sert de venir prêcher s'ils ont déjà prêché mon message ? Mais je pense que ce n'est plutôt qu'une confirmation de ce que le Seigneur veut vous donner. Amen. Amen. J'aimerais bien que vous ouvriez vos Bibles dans Actes chapitre 27. Et avant de lire, je vous donne un petit peu le contexte de ce qui se passe. Paul est prisonnier. Il s'en appelle à César et il faut qu'il aille voir César, probablement parce que son objectif primordial est... son objectif primordial est celui de témoigner à César. Amen. C'est pas qu'il veut être devant César parce qu'il a envie d'être à côté de lui. Il veut être devant César pour lui parler de la puissance du sang de Jésus-Christ. Amen. En fait, même dans les deux, trois chants qu'on a chantés aujourd'hui, l'évangile était dans ces chants. Amen. On voit un Dieu qui est pour nous, un Dieu qui nous libère par la puissance de son sang. Nous sommes couverts par le sang de Jésus et Jésus revient. Ouh, alléluia. Amen. Et c'est tellement important de chanter des chants qui sont fondés dans les Écritures. Et c'était ce qui s'est passé ce matin. Amen. Tu es là, présent au milieu de nous. Et tu fais des miracles. Tu frais un chemin. Waouh, alléluia. Amen. Et donc Paul est prisonnier et il doit se rendre à Rome. Et il est en bateau avec donc toute l'escorte, ils sont à peu près 276 personnes. Il longe la côte de Chypre et petit à petit il se rend compte qu'il y a des vents contraires. Alors il continue mais il longe la Crète et arrête près d'une ville qui s'appelle Lazé, à bon port. Paul perçoit en ce moment-là que... il ne faut pas continuer. Mais le centurion, le chef des Romains qui a sous sa charge le prisonnier Paul, ne veut pas hiverner là parce que le port dans lequel il se trouve ne porte pas bien à l'hivernation. Donc il décide de partir, d'autant plus qu'il y a un vent qui vient qui s'appelle Euroquilion. Tout ce qui commence par euro n'est pas toujours bon. Euroquilion. Et ils s'en vont. Paul dit non, faut pas faire ça, mais ils s'en vont. La majorité décide de remettre la voile. Encouragé donc par ce vent, il quitte la Crète, d'abord il allonge, et à un certain moment vient une grande tempête, et tellement puissante que ces gens commencent à avoir peur pour leur vie. Regardez le verset 18 et 20, à 20 avec moi. Acte 27, 18 à 20. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Amen. Le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Ni le soleil, ni les étoiles n'avaient paru pendant plusieurs jours et la tempête restait si forte que nous avions finalement perdu toute espérance d'être sauvés. Voilà ce qui se passe. Et cela me fait penser à la vie de chacun de nous. Combien d'entre vous et moi ne passons-nous pas dans notre vie par des tempêtes ? Quelquefois on se demande, est-ce que je vais m'en sortir ? Sorte de situation adverse, est-ce qu'on va s'en sortir? Peut-être pas directement notre vie, mais il n'y a pas que notre vie qui compte. De toute façon, si nous mourons, comme le disait très bien le pasteur Bondo, nous déménageons. Nous allons vivre avec Dieu. Mais il y a autre chose qu'on doit faire avant de partir. Nous devons accomplir les plans de Dieu pour notre vie. Et la Bible dit que dans Ésaïe, que les plans de Dieu se réaliseront. Qui pourra l'arrêter? Mes amis, je suis ici ce matin pour vous dire, aucune tempête ne peut arrêter le plan de Dieu pour votre vie. Amen. Ces braves marins se trouvait dans une énorme tempête. Elle semblait les submerger. Une autre traduction dira que pendant 14 jours, c'était la nuit. Pendant 14 jours, jour et nuit, c'était les ténèbres. Et il y a beaucoup de gens, même dans nos églises, qui vivent comme dans les ténèbres, non pas parce qu'ils sont dans les ténèbres, mais parce que les situations sont tellement adverses qu'ils ne voient pas de solution. Mais il y a toujours une solution en Jésus-Christ. Amen. Remarquez que le chant disait « Tu ferais un chemin ». Il n'a pas dit « Je me ferai un chemin ». Amen. Voyez-vous, nous avons chanté ce chant exceptionnel qui disait « Saint-Esprit a le contrôle ». C'est lui qui a le contrôle, mais nous devons coopérer avec lui. Amen. Quand maman vous donnait à manger, au départ elle vous donnait à manger. Mais plus tard vous êtes devenu de plus en plus grand et vous avez dit « Non maman, maintenant je coopère avec toi et je commence à manger moi-même ». Amen. Le vrai miracle vient lorsque le surnaturel de Dieu se lie avec le naturel humain et ensemble on accomplit des grandes choses. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Amen. Malheureusement, ces gens avaient peur et on voit au verset 29, il est dit ceci, craignant d'échouer sur des récifs, ils ont jeté 4 ancres de la poupe en souhaitant que le jour se lève. Voyez-vous, ils ont essayé de trouver des solutions avec des voies humaines. Mais nous sommes appelés à trouver des solutions avec les voies de Dieu. Amen. Qu'allons-nous faire? Allons-nous suivre Dieu ou allons suivre nos propres raisonnements? Allons-nous suivre l'Esprit de Dieu ou allons-nous suivre notre propre intelligence? La Bible dit, ne sois pas sage à tes propres yeux. Confie-toi en l'Éternel. Amen. Amen. Donc, ils ont jeté ces 4 ancres, mais ces 4 ancres n'étaient pas efficaces. Maintenant, le bateau semble perdu. Cependant, à bord, il y avait un homme du nom de Paul. C'est un homme spécial et différent pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'était un fils de Dieu. Dites-le à vous et à votre voisin, je suis un fils de Dieu. Amen. Wow. Certains pourront dire, je suis un enfant de Dieu. Amen. Hein? C'était un homme en mission. Dites à votre voisin, es-tu en mission? Nous avons tous une mission. La première de nos missions, si nous sommes parents, c'est d'être de bons parents. La première mission, si on est un mari, c'est d'être un bon mari. Et bien sûr, notre mission, c'est d'être des disciples de Jésus-Christ et accomplir ce qu'il nous demande d'accomplir. C'était aussi un homme de foi. C'était un homme qui croyait dans la parole de Dieu, quoi que ce soit qu'il arrive, ce qui est écrit dans la parole est la vérité. Et aussi, c'était un homme qui était en communion avec Dieu. Savez-vous, le temps que l'on dédicace à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu est très souvent une indication du vrai temps que l'on aimerait passer avec Dieu. Moins de temps tu veux passer avec Dieu, moins de temps tu passeras avec la parole. Plus de temps tu veux passer avec Dieu, plus de temps tu voudras passer avec la parole. Amen. Amen. Et donc ils ont jeté ces ancres, elles n'avaient aucune efficacité, mais je veux que vous sachiez, en toute chose, nous avons le choix entre les voies de l'homme et les voies de Dieu. Permettez-moi de partager avec vous quelques ancres que Paul a jetées à la mer. Mais il ne les a pas jetées à la mer en les prenant du bateau. Ce sont des ancres qui étaient dans son cœur, des ancres qui étaient bien au fond de son cœur, parce qu'il les a découvertes dans sa communion avec Dieu. Alléluia. Donc, Paul avait aussi 4 ancres sur lesquelles reposait sa vie. Tout d'abord, il avait l'ancre de la présence de Dieu. Regardez le verset 23. Il dit, « Un ange de Dieu à qui j'appartiens, que je sers, m'est apparu cette nuit. N'avons-nous pas chanté que nous appartenons à Dieu? Alléluia! Je vous dis, les chants, c'était notre prédication d'aujourd'hui. Mais c'est bien, parce que ça nous aide à nous rappeler que nous devons croire ce que nous chantons. Que nous devons vouloir dire ce que nous chantons. Amen. Personne n'a pensé ce matin en venant qu'il chantait « J'appartiens à Dieu » que ça faisait partie de la prédication d'aujourd'hui. Mais chaque moment de louange doit faire partie de votre vie. Amen. Ce que vous chantez doit être la vérité qui vous rend libre, dit la parole de Dieu. Amen. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Non seulement il appartient à Dieu, mais il sert Dieu et l'ange lui est apparu. Alors nous n'avons pas besoin d'avoir un ange qui nous apparaît. Nous avons avec nous Dieu et la parole de Dieu. Et déjà, ça nous suffit. Amen. Vous rappelez-vous, lorsque le centurion est venu et il a dit à Jésus, « Mon serviteur est malade. » Et Jésus dit, « Je m'en vais le guérir. » Et le centurion dit, « Non, 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 ne viens pas chez moi. » Ah ben moi, je ne sais pas pour vous, pasteur. Mais si Jésus dit, « Je vais chez toi », je dis, « Viens !» Et il lui dit, « Non !» Et il lui dit ceci, « Car ta parole me suffit. » Amen. Hallelujah. Ta parole me suffit. Mes amis, ce qui est écrit dans la parole de Dieu nous suffit. D'ailleurs, la Bible dit que nous avons une parole prophétique encore plus certaine. C'est celle qui est écrite dans la parole de Dieu. Amen. Nous n'avons pas besoin de vivre des prophéties ou de visions. Nous avons besoin de vivre par la parole de Dieu. Amen. Non pas que Dieu ne peut pas intervenir avec une parole prophétique, ça fait partie des dons spirituels, on le sait. Mais il y a des gens qui vivent de cela. Tout ce qu'ils veulent, c'est ce que Dieu va me parler. Et puis ils n'écoutent plus le pasteur prêcher. Oh ! Ils espèrent avoir une prophétie particulière. Mes amis, la plus grande des prophéties, c'est celle que vous trouvez dans la parole de Dieu. Elle est vraie. Amen. Bon, je vous raconterai dans le cours de ce message comment ma petite fille, née en 1992, elle est née handicapée. Elle ne pouvait ni marcher ni parler. Elle n'avait aucune motricité. Et nous avons cru dans la parole de Dieu. On m'a demandé tellement de fois, pasteur, je suppose que tu as eu une prophétie qui garantissait sa guérison. J'ai dit, la seule prophétie que j'avais, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Si la parole de Dieu dit, je suis l'Éternel qui te guérit, ça me suffit. N'est-ce pas ce qu'on a chanté? Tu me suffis. Alléluia. Dieu nous suffit. Bien sûr, de nouveau, nous ne sommes pas là en train de dire qu'il faut mépriser la parole prophétique, la Bible en parle. Mais il faut faire attention et vivre dans un équilibre. Et le plus grand des équilibres, le plus grand des maîtres qui nous déclare si quelque chose vient de Dieu ou pas, c'est la parole de Dieu. Amen. Et donc, même au milieu de la tempête qui fait rage, Paul n'était pas seul. Vous n'êtes pas seul, mes amis. Le Seigneur avait placé la paix et la sécurité dans la vie de Paul. Nous avons tous cette immense certitude aussi pour notre vie. Le Seigneur est avec nous. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Le psaume 23 dit, grâce et miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ouh, hallelujah. Amen. Un jour, il y avait une petite adolescente qui demande à sa maman, elle commence à avoir 13, 14, 15 ans, « Maman, maintenant je suis grande, » qu'elle dit. « Je vais pouvoir aller à l'école toute seule. » Et elle insiste, et elle insiste. Et finalement, sa maman dit, « Ok, ça ne sert à rien que je te dise, non, parce que de toute façon, tu vas tout faire. » Et donc, elle commence à aller à l'école toute seule. Quand elle est plus grande, et qu'elle maintenant elle est mariée, elle était assise dans le salon avec des amis et sa maman, et elle se vantait qu'à 12, 13 ans déjà, elle allait toute seule à l'école. Et sa maman la regarde et dit, « Chérie, tu n'étais pas toute seule. Parce que quand tu partais, je te suivais de loin. Pas que je n'avais pas confiance en toi, Mais je voulais être là au moment du besoin. Alléluia. L'apôtre Paul est dans une tempête au moment du besoin. Et mes amis, il n'était pas seul comme vous n'êtes pas seul. L'Éternel est au milieu de nous. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Amen. Parmi les quatre ancres de Paul, il y avait aussi l'ancre des promesses de Dieu. Et à nouveau, les promesses de Dieu se trouvent dans un seul endroit, dans la parole de Dieu. N'écoutez pas ces sectes qui écrivent d'autres livres ou d'autres sectes qui disent « Mais nous, on a la Bible ». Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'ils ont d'autres livres au-dessus de la Bible. Amen. Je connais une secte d'origine chrétienne qui lisent un passage de la Bible et puis ils prennent les prédications de leur fondateur et ils prêchent sur la prédication. Allô ? Quelle que soit notre prédication, elle ne vaut jamais, elle n'équivaut jamais à la parole de Dieu. L'homme est encore faillible, mais Dieu ne faillit pas. Et la parole de Dieu ne faillit pas. C'est pour ça que la Bible dit qu'il faut juger toutes choses. Il faut quand même vérifier. Amen. Hein? Lorsque Paul vient prêcher, je crois que c'est à Thessalonique, ils vont vérifier dans la parole si ce que Paul disait était vrai. Amen. Amen. Quelle était la promesse que Paul avait reçue? Acte 27, 24. L'ange auquel l'ange de Dieu auquel il appartenait, lui a dit ceci. Paul, ne crains point. Mes amis, dites à votre voisin, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. En d'autres mots, il faut que tu accomplisses l'appel de Dieu pour ta vie. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Verset 25. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette assurance, cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Amen. En d'autres mots, la parole de l'ange était, rappelle-toi, Dieu est toujours avec toi. Rappelle-toi, quelle que soit la tempête par laquelle tu passes, mon frère, quelle que soit la tempête par laquelle tu passes, ma sœur, je veux que tu saches, Dieu est avec toi. Amen. Ils vont dire, oui, mais de temps en temps, je ne fais pas les choses bonnes. Est-ce que Dieu est encore avec moi? La Bible donne un principe fondamental. Si tu pèches, confesse tes péchés. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils veulent confesser le péché le dimanche matin. Juste avant de venir à l'église. Sur le Wawa. Wewa, wewa. Au Bénin, on appelle ça un tap-tap. J'ai été sur le tap-tap. Plus jamais de ma vie. C'est trop dangereux. Mais vous êtes sur votre wewa. Et puis, oh Seigneur, je prie, tourner pardon, tout pardon, tous mes péchés. Hello. Dieu n'a jamais dit que vous devez attendre le dimanche ou une fois par an. La Bible dit qu'une fois que tu pèches, tu confesses ton péché au Seigneur. N'attends pas, mon frère, et marche de nouveau dans la lumière. Parce que quand nous marchons dans la lumière, la Bible dit, nous sommes en communion avec lui. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est tellement important pour cela. Voyez-vous, une parole de Dieu était suffisante pour Paul. Pourquoi? Parce que Paul savait, comme Abraham, que Dieu est fidèle et qu'il garde sa parole. Abraham était muni d'une pleine conviction que ce qu'il promet, que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. La parole est pleine de promesses. Un homme a fait le calcul et il est venu avec une estimation qu'il y avait environ 8810 promesses. Et ce qui est important de savoir, c'est que de ces 8810 promesses, il y a des promesses de l'homme à l'homme, de l'homme vers un homme, mais il y a 7487 promesses qui sont adressées de Dieu à l'homme. 7487 promesses. Il y a plus que 100 promesses par jour. Il y a plus que 200 promesses par jour. Et je pense que dans toutes les situations de notre vie, nous pouvons creuser dans la parole et chercher un verset, une parole qui parle à nos cœurs et qui nous promet la solution dans laquelle on se trouve. Un des premiers versets que Dieu nous a donné lorsque nous avons appris que ma fille était née handicapée, c'est que tout don parfait et excellent vient du Père des Lumières, chez lequel il n'y avait aucun ombre de changement. Le Seigneur nous a donné cette promesse et nous avons tenu ferme sous cette promesse. Nous avons dit, Seigneur, mon bébé est un don parfait et excellent qui vient de toi. Ce qui n'est pas parfait, ça ne vient pas de toi. Amen. Amen. Et donc, nous avons cette assurance et ces promesses. Allez dans la parole, découvrez les promesses et ensuite appropriez-les pour votre vie. Voyez-vous, chaque promesse dans la Bible a deux aspects. Un aspect légal, ça veut dire que sur la croix, Jésus a payé pour que cette Bible, ces promesses deviennent réelles dans notre vie. Mais ensuite, il y a un aspect vital. Nous devons aller et nous approprier ces promesses. C'est un exemple. Venez, mon frère, s'il vous plaît. Merci. Disons que ça, c'est une promesse que vous me donnez. Et vous me dites, pasteur Donato, c'est à vous. Amen. C'est à moi. Mais ça ne sert à rien tant que je ne vais pas m'approprier ces promesses. La Bible dit, merci beaucoup mon frère, la Bible dit, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Mais elles sont où? Elles sont dans les lieux célestes. Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit aller nous approprier ce pourquoi Jésus est mort sur la croix. Non, pourquoi je peux dire cela? Parce que la Bible dit que lui, qui n'a même pas épargné son fils en le clouant sur la croix, combien ne nous donnera-t-il pas tout en plus? Amen. Alléluia. Amen. Ensuite, comme je dis, parmi les quatre ancres sur lesquelles reposait sa vie, Paul avait ensuite l'ancre de la providence de Dieu. Au verset 24, il est dit, « Et il m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Voyez-vous, dans le milieu de la tempête, Paul reçoit la certitude que le Seigneur était avec lui et qu'il allait accomplir son plan de toute façon. Laissez-moi faire une toute petite parenthèse. Je sais qu'on essaie souvent d'adapter notre message avec un langage commun, un langage que tout le monde comprend. Quelquefois, je suis un petit peu ennuyé lorsque j'entends, surtout dans des grands rassemblements de jeunes, « Dieu veut t'aider à accomplir ta destinée et ta destinée. » Je comprends, mais Dieu ne n'a jamais promis qu'il va nous aider à accomplir notre destinée. Dieu veut nous aider à accomplir notre appel. Mes amis, nous sommes appelés à servir Dieu dans quel que soit l'endroit où nous trouvons. Amen. Notre destinée peut être autre chose. La destinée de ma fille, c'était d'être dans une chaise roulante, ne pas pouvoir bouger. Ceux qui ont le virus avec lequel elle était affectée, je vous assure, depuis tout petit, depuis ils ont 3 ans, 4 ans, on leur donne une chaise roulante qui tient tout, y compris sa tête, pour qu'elle reste droite. Mais Dieu n'avait pas cette destinée pour lui. Parce qu'il y a quelque chose qui est plus grand que votre destinée, c'est l'appel de Dieu pour votre vie. Amen. Amen. Il y a quand les défis de la vie sont difficiles et que vous vous demandez si vous pouvez y arriver, rappelez-vous du plan de Dieu pour votre vie. Dieu ne permettra pas Dieu ne permettra pas que l'ennemi arrête le plan de Dieu pour votre vie ou qu'il vous empêche de l'accomplir. Il est un fait que Paul devait aller à Rome et que l'ennemi voulait l'en arrêter. Johannes Brenz était un ami de Luther. L'empereur Charles V le détestait. Et donc un jour, il décide de le tuer, de l'arrêter pour ensuite le tuer. Un jour, entendant les soldats arriver, il s'enferma dans une sorte de mezzanine pendant 2 semaines. Mais en allant avec précipitation, il n'a eu que le temps de prendre un petit morceau de pain. Et le voilà vraiment enfermé dans cette mezzanine. Les soldats n'arrivent même pas à la trouver tellement c'était petit. Mais il se dit, mais comment je vais faire pour vivre? Parce que les soldats sont restés. Et chose extraordinaire, c'est que depuis le premier jour, une poule venait tous les jours dans la mezzanine pondre un œuf. Un jour, jour 2, jour 3, jusqu'au jour 14, 2 semaines. Et puis il se dit, elle est où ma poule? Elle n'est pas venue. Et à un certain moment, il entend les enfants crier, « Les soldats sont partis !» Mes amis, pendant 2 semaines, pendant que les soldats étaient là, à la recherche de cet homme, espérant qu'il retourne à la maison, pendant 2 semaines, le Seigneur a pourvu en envoyant une poule apporter un œuf chaque jour. Nous avons la providence de Dieu avec nous. Dieu dit, je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Je suis encore l'Éternel qui pourvoit à tous tes besoins. Amen. Ainsi, parmi les 4 ancres sur lesquelles reposait sa vie, Paul avait aussi finalement l'ancre de la performance de Dieu. Le verset 44, s'il vous plaît. Acte 27, 44. Et aux autres de se mettre sur des planches où c'est des débris du navire. Et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. Amen. Ça veut dire qu'à un certain moment, c'est beau d'avoir les promesses de Dieu, c'est beau d'avoir la providence de Dieu, c'est beau d'avoir la présence de Dieu, mais il faut quand même qu'un jour les choses se manifestent. Et Dieu s'est manifesté. Et tout le monde a été saint et sauf. Alléluia. Amen. La Bible dit, nombreuses sont les afflictions du juste, mais l'Éternel l'en délivre de tous. Vous savez, Dieu n'envoie pas cette tempête. Il est clair que cette tempête était envoyée pour empêcher Paul d'accomplir son appel. Et beaucoup, pas toutes les tempêtes, mais beaucoup de tempêtes sont envoyées pour vous empêcher d'être qui vous êtes en Christ. Pour vous empêcher d'accomplir le plan de Dieu pour votre vie. Pour vous empêcher de servir Dieu dans votre église. Hello! Le premier endroit où on sert Dieu, c'est dans notre église locale. Et combien de fois il n'y a pas des tempêtes, des soucis de la vie qui viennent nous empêcher. Et on arrive vers le pasteur, on lui dit 3 heures plus tard, « Pasteur, je n'ai pas pu venir parce qu'il y a eu telle et telle chose. » Dans mon église, il y en a beaucoup qui ont des excuses comme ça. Et je leur dis, mes amis, si vous ne vous réveillez pas et vous ne prenez pas action et position, vous aurez toujours des tempêtes le dimanche matin pour venir à l'église. Hello, à un certain moment, on doit se réveiller et dire, Dieu est avec moi, je vais là parce que Dieu m'attend, mon pasteur m'attend, mon responsable de secteur m'attend, l'église m'attend, je suis une lumière de ce monde et je dois être une lumière dans l'église. Dans le temps, lorsqu'il n'y avait pas l'électricité dans certaines églises, il n'y avait pas non plus les moyens d'acheter énormément de bougies pour éclairer des grandes salles. Alors chacun venait avec sa petite bougie. Et quand ils étaient à l'église, chacun éclairait et il y avait de la lumière. Et c'est tellement facile dans ces cas-là de voir si quelqu'un est là ou il n'est pas là. Parce que des fois, il y avait des trous tout noirs parce qu'il y avait des gens qui manquaient. Mes amis, je veux que vous vous rappeliez quand vous venez à l'église. Vous êtes la lumière de ce monde, même dans votre église. Amen. Amen. Le Seigneur veut que vous sachiez que vous pourriez passer par une tempête aujourd'hui. Voyez-vous, le diable envoie la tempête, mais Dieu ne la gaspille pas. Le Seigneur a envahi la tempête et il a commencé à diriger les vents vers une île, l'île de Malte. À Malte, on apprend qu'il y avait une multitude de gens qui étaient malades. Le chef de la ville, Publius, les accueille. Accueille Paul et tous ces gens-là. Vous vous rappelez, Paul est là, il fait quelque chose. Il commence à faire du feu, vous connaissez l'histoire, puis vient une vipère, et il secoue la vipère, et il vit au lieu de mourir. Le diable a envoyé la tempête, mais Dieu ne l'a pas gaspillée. Voyez-vous, écoutez-moi, qui sait peut-être que Paul ne serait jamais arrivé sur l'île de Malte s'il n'y avait pas eu cette tempête. Ce n'était pas dans son objectif. Quelquefois, il y a des tempêtes qui sont devant nous, mais de l'autre côté de la tempête, il y a une multitude de malades qui ont besoin de notre aide. Lorsque Jésus était sur la tempête et ils sont allés de l'autre côté de la rive, de l'autre côté, il y avait un homme démoniaque qui avait besoin de sa libération. Amen. Paul secoua le serpent. Vous savez, en ce temps-là, quand quelqu'un était touché par le serpent, on disait qu'il tombait, enflait et mourait. Paul n'est pas tombé, il n'a pas enflé et il n'est pas mort. Alléluia. Alors ils se sont dit, peut-être que c'est un homme spécial, peut-être que c'est un dieu. Ben, ils n'étaient pas tellement loin, c'était certainement pas un dieu, mais c'était un des enfants de Dieu. Vous n'êtes pas des dieux, nous ne sommes pas des dieux, mais nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Hein? Nous appartenons à ce Dieu tout-puissant, celui qui est avec nous, celui qui est pour nous, celui qui nous soutient de sa droite triomphante. Amen. Il secoue. Écoutez-moi ce qui est important. Vous rappelez-vous ce que je vous ai dit dès le début? Le Saint-Esprit a le contrôle, mais nous devons coopérer avec lui. Il y a des choses que le Saint-Esprit veut faire, et doit faire, mais il y a des choses que vous devez faire. Paul a bien compris que ce n'était pas suffisant d'être mordu par le serpent et de faire de ce serpent un monument dans sa vie. Il a dû secouer le serpent. Et nous devons secouer toutes ces choses qui n'appartiennent pas à Dieu et qui viennent nous agresser. Nous devons secouer, nous devons nous séparer de tous ces mensonges envers nous. Peut-être des gens mentent maintenant, ils vous donnent une mauvaise réputation, mais vous secouez ces choses-là. Vous dites, ces choses-là ne vont pas affecter mon cœur, parce que je sais qui vit en moi. L'Éternel vit en moi. Amen. Hein? Quel que soit ce que l'adversité qui vient contre nous, nous devons la secouer. J'ai une petite question, parce que suite à cela, il y a un réveil. Paul va imposer et va apporter avec l'aide de Dieu la guérison à tous les malades. Une question, laquelle main a été mordue par le serpent? La Bible ne le dit pas. Et ça n'a pas d'importance. Parce que lorsque Paul a prié pour les malades, il n'a pas imposé une main, il a imposé les mains. Et même cette main qui devait être morte a continué à porter la vie de Dieu. Parce que celui qui est en vous est bien plus grand que celui qui est dans le monde. C'est ce que vous pouvez faire, c'est ce que nous pouvons faire. Amen. C'est ce que nous devons faire avec, c'est ce que nous avons fait avec la maladie de notre fille Gabriella. Comme je vous l'ai dit, Gabriella ne pouvait ni marcher, ni parler. Elle n'avait aucune motricité fine. En fait, pour l'asseoir, on devait l'asseoir sur le divan avec 6 coussins. Elle avait 9 mois, 1 an. 6 coussins autour de sa tête et tout partout pour qu'elle reste plus ou moins assise. Elle arrivait je dis, elle avait une certaine motricité, pas la fine, mais si elle était dans les bras de quelqu'un, dans mes bras, elle devait se pencher en arrière pour voir là-bas. Parce qu'elle n'arrivait pas à lever la tête. Si sa tête tombait sur une épaule, elle restait comme ça toute la journée. Elle avait un virus qui s'appelle le CMV, le cytomégalovirus. Aujourd'hui, on fait le test aux mamans, en tout cas en Belgique et en Europe, on fait le test aux mamans qui sont enceintes, et si elles ont le CMV, le service médical fait tout pour forcer presque la maman à avorter. Mais vous comprenez que nous ne croyons pas dans cela. Amen. Nous croyons encore dans la parole de Dieu qui dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Amen. Et donc, mais nous avons dû nous reposer sur la présence de Dieu. Nous avons dû nous reposer sur les promesses de Dieu. Nous avons dû nous reposer sur la providence de Dieu. Et sur le fait que Dieu était venu avec sa performance. Un jour, ma fille, pour raconter toute une histoire longue, au bout de quelques mois après qu'on a on a découvert le vrai problème quand elle avait à peu près 6-7 mois. Vers presque un an, elle a commencé à s'asseoir toute seule, à lever la tête aussi. Vers 2 ans, elle a commencé à marcher à 4 pattes. Et un jour, je rentre de mon bureau et je la vois à terre avec des gros yeux tout pétillants. Elle ne parlait pas et je lui dis, chérie, tu veux me dire quelque chose, toi? Tu veux me montrer quelque chose? Elle fait comme ça. Et je vous assure, je n'oublierai jamais de ma vie. Je l'avais déjà vue se lever depuis maintenant quelques semaines. Elle se levait et se tenait autour de la table. Mais ce jour-là, elle s'est mise debout. Et elle a fait ça. Je vous l'assure, je ne l'ai pas filmé. Mais c'est filmé dans mon esprit pour la vie. Elle a fait comme ça. Et puis elle est allée vers l'arrière. Et puis elle se rend compte qu'elle va trop loin. Et puis au plum, elle s'est remise sur ses pieds. Et elle commence à marcher. Et elle n'a plus jamais arrêté de marcher. Amen. La tempête était dure, mais la tempête était pas seulement contre nous. La tempête était contre elle pour l'empêcher d'accomplir le plan de Dieu pour sa vie. Ensuite, elle est allée à l'école comme tout le monde. Elle a eu son bac comme tout le monde, sa rhétorique à la fin. Amen. Ensuite, elle est partie à l'âge de 19 ans, ma petite fille toute seule à 19 ans. J'étais avec elle à Toronto et puis je l'ai apportée aux États-Unis. Pour aller à l'école biblique pendant 2 ans. Ensuite, elle est revenue. Elle est allée étudier en Belgique et elle est devenue infirmière. Et ce matin, à cette heure-ci, elle est en train de prêcher dans notre propre église. Amen. Amen. Peut-être ce matin, pour certains, il semble que le bateau de votre vie est en train de sombrer. Attention, je veux que vous sachiez une chose. Notre désir de voir Gabriella guérie n'était pas pour nous, mais pour elle. Un jour, un évangéliste en Belgique est venu vers moi pendant que je priais pour les malades, je le connaissais, et il me dit, prie pour mon fils. Il est handicapé et c'est une honte pour mon ministère. J'étais choqué. Je lui dis, mon frère, c'est pas pour ton fils que je dois prier, c'est pour ta tête. Nos enfants, qu'ils soient en bonne santé ou pas en bonne santé, la Bible dit, ce sont des cadeaux, des dons de Dieu pour nous. Amen. Mais nous remercions le Seigneur parce que Dieu a guéri Gabriella. Amen. Lorsque nous voyons les vagues, lorsque vous vous trouvez dans une situation où vous avez l'impression que la tempête semble prendre le dessus dans votre vie, rappelez-vous, et je tiens à vous dire ce matin, Lorsque vous verrez que les vagues disparaissent, lorsque vous verrez que le vent se calmer, lorsque vous verrez le changement de pluie en parfum, et quand vous verrez les nuages d'orage se dissiper jusqu'à l'horizon, vous allez voir que malgré les vagues, malgré les vents, malgré la pluie, malgré les nuages, Dieu était toujours avec vous. Vous verrez que Dieu vous amène toujours à destination. Vous verrez que le Père ne vous laisse pas tomber. Vous verrez que le Père est avec vous, dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Il est loyal, il est fidèle. Avez-vous jeté vos ancrages spirituels dans la mer pendant la tempête? La présence de Dieu, les promesses de Dieu, la providence de Dieu, pour ensuite voir la performance de Dieu. Si vous ne l'avez pas déjà fait, il est temps de le faire. Levons-nous s'il vous plaît. Il est temps de le faire. Et de montrer, de prouver à votre Père que vous avez confiance en lui. Une des manières de le faire, c'est de parler à Dieu et de parler à vos circonstances. Vous avez certainement entendu ces gens dire, ne dites pas à Dieu combien votre problème est grand, mais dites à votre problème combien Dieu est grand. Amen. Parlez à l'ennemi. Dites-lui, tu viens contre moi avec l'épée et le javelot, mais je viens avec le nom de l'Éternel. Faites-le savoir à vos ennemis. Et faites-le savoir à vos ennemis, amis. Dites à toute personne qui a besoin de l'entendre, je sais que tout ira bien parce que j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Le plan de Dieu se réalisera. Qui pourra l'arrêter? Dieu vous bénisse et dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour le peuple et merci pour la parole qui nous encourage tous. Nous te louons, Père, je t'appartiens, nous sommes là et tu es là présent parmi nous. Amen.